Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 1er août 2026. On se retrouve pour le 16e épisode des Archives de l'Architecte, le récapitulatif de l'actualité financière de cette semaine avec des marchés qui ne savent plus sur quel pied danser. Le S&P 500 clôture proche des 7500 points malgré une semaine mitigée et agitée, c'est le peu de le dire. Les actions continuent d'être soutenues malgré un pétrole haut et des taux à 20 et 30 ans en train d'haussière du côté des États-Unis, mais pas que, puisqu'on a vu également qu'en Europe, c'était le cas, et même du côté du Japon d'ailleurs. Très grands écarts journaliers, Microsoft qui prend 15,5% en séance, Amazon qui vendredi conforte tout ça au niveau des résultats des 7 magnifiques. La hausse est portée par ce bénéfice donc des Super 7. Le S&P 500 clôturera plus 1%, le Nasdaq plus 1,6%, le Dow Jones plus 1% et le Russell 2000 est actuellement stable. Attention encore et toujours à la saisonnalité peu favorable en août-septembre cumulativement au mid-term en novembre, avec statistiquement la plus mauvaise année des 4 ans de la présidence US. Donc c'est maintenant ces 2 mois où on risque de se faire un petit peu chahuter. Europe, retour du risque inflationniste avec un Eurostoxx 600 à 649 points à l'équilibre. L'inflation en zone euro est de 2,9% en progression, sous-jacente 2,5% et service à 3,3%. Les secteurs favorisés sont les bancaires, l'énergie et cela pèse à court terme sur l'immobilier. Une économie européenne qui résiste mieux que prévu, mais la BCE, rappelons-le, a dû augmenter les taux. Or, commodités et obligations, tension importante avec le Treasury 10 ans aux États-Unis à 4,75% et le 30 ans à 5,27%. Ce niveau n'a pas été atteint depuis 2007 au moment des subprimes et ça laisse se poser la question aujourd'hui de s'il ne vaut mieux pas aller sur ce marché obligataire justement plutôt que de se faire mal du côté des actions ou de la tech qui vont connaître énormément plus de volatilité. Du côté de l'or, l'inflation ne suffit pas à faire progresser donc le métal qui se laisse aller. Il reste pour sa part une assurance contre un accident monétaire, géopolitique ou budgétaire, mais pas automatiquement performant. Lors d'un choc inflationniste, le marché redoute une potentielle hausse des taux de la Fed. À un horizon court-moyen terme, cela crée une tension importante et concurrence sérieuse donc pour les actions, avec baisse de la valeur actuelle des bénéfices futurs, refinancement plus coûteux au niveau des États et des entreprises et une pression sur le domaine de l'immobilier et le private equity. Donc on parle bien entendu des taux à nouveau qui en ce moment, eh bien, on a un peu un choc obligataire. Du côté du Bitcoin et des cryptos, Bitcoin en phase de faiblesse structurelle. Autour de 60-65 000, on ne sait pas trop à quel sein se vouer. Il faudrait reprendre les 70-71 pour espérer rallier des zones un peu plus hautes, toujours sensibles à la liquidité mondiale, les taux réels. Le dollar qui s'est démontré plutôt fort ces temps-ci, ainsi que l'appétit spéculatif qui était en berne hors IA et hors tech qui attire toutes les convoitises. Anticipation également de la politique monétaire avec une Fed désormais qui ne donne plus de direction et qui navigue un petit peu à vue. Et ça, les marchés n'aiment pas trop cette incertitude latente. Le sentiment est donc mitigé entre l'attente d'un point bas final lié au cycle de 4 ans d'ici à cet automne et les espoirs initiés autour du Clarity Act avec une deadline dans seulement 7 jours. Donc ça sera, si on est le premier aujourd'hui, autour de vendredi prochain, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est les derniers instants pour pouvoir faire passer le fameux Clarity Act, sinon ça reportera minima à 2027. Donc, on vit quand même un moment assez important pour la crypto et comme on l'avait vu la dernière fois, ça pourrait bénéficier très largement à Coinbase, à Circle, à des projets comme Ondo, comme à Ethereum même et toute la galaxie qu'il y a autour. Donc, attention à ce moment clé un petit peu sous une semaine roulante. La semaine prochaine, qui sera toujours aussi cruciale pour cet été, bien que, comme le dit souvent Vincent Gann, c'est plutôt marrant, chaque semaine est importante. On aura les offres d'emploi JOLTS pour les États-Unis, enquête ADP, indice ESM manufacturier et services, commandes industrielles, balance commerciale, inscription au chômage, rapport officiel sur l'emploi US. Et pourquoi, dans ce contexte, les emplois ont plus de poids pour les marchés que tout le reste cumulé, puisque les scénarios de marché qui pourraient se dérouler en fonction des résultats de l'emploi. Premièrement, emploi fort plus salaire élevé égale hausse probable des taux, pression sur le Nasdaq et donc les actions Bitcoin et obligations longues. Le second scénario, emploi modéré plus inflation stable, ça donnera un scénario idéal au niveau des actions avec une détente des rendements obligataires. Le troisième scénario, emploi faible plus pétrole élevé, scénario stagflationniste avec toujours ce choc énergétique défavorable aux actions et aux crédits. Et enfin, le quatrième scénario, détente géopolitique, pétrole sous les 85 $ le baril, meilleur meilleur catalyseur immédiat pour les obligations, les valeurs de croissance et les cryptoactifs, cumulativement en effet à ce fameux Clarity Act s'il vient à passer. On part au niveau de l'analyse technique, alors il y a des choses qui ont bougé depuis la petite émission fortuite d'autres noms. On a le pétrole pour l'US Oil et l'UK Oil à 86,87 pour l'un et 91$ le baril pour l'autre, mais comme on l'a vu en intro donc de cette émission, c'est bel et bien du côté des taux où on a un break, un point qui n'avait pas été franchi pour le 30 ans depuis octobre 2023 et on est dans une trend résolument haussière, ce qui fait que aujourd'hui légitimement, quand on se positionne sur les marchés, quand on peut sécuriser pendant des décennies plus de 5 points par an tout en n'ayant pas les affres de la volatilité en effet du marché action qui aujourd'hui est très volatile par essence depuis 2020 et l'impression monétaire complètement folle, c'est très le premier step. Et à présent, depuis 2 ans, on a l'IA, on a les semi-conducteurs, on a tout ce qui va bien, l'énergie, blablabli, blablabla. Et ça nous crée comme ça des volatilités où on a des décalages, y compris sur des Microsoft et consorts, de plus 15%, même en séance intrajournalière. Donc inutile de vous dire que de l'autre côté du spectre, les vieux retraités richissimes américains doivent très largement aussi s'intéresser un petit peu à ce qui se passe du côté du marché obligataire. Est-ce que pour nous, maigres européens que nous sommes, de la tranche 30-40 ans en moyenne sur la chaîne, puisque là aussi, voilà, c'est les statistiques de ces dernières années, on est à peu près 35 ans en moyenne sur la chaîne. Donc est-ce que pour nous, ça vaut le coup de s'intéresser d'ores et déjà aux obligations alors qu'on est encore loin de la retraite et d'une nécessité absolue de casser cette volatilité de marché? Il va falloir là aussi jauger en fonction de votre propre appétence au risque. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui a le mérite d'exister. Et si on pouvait mettre en avant un risque, en effet, par rapport au marché obligataire, ça serait premièrement que les États-Unis fassent faillite. Il y a quand même assez peu de chances sur le papier que ça vienne à arriver. Et deuxièmement, au moment où vous achetez une obligation, c'est par rapport à son prix en tant que tel. Si le taux continue à monter ici, le rendement, donc admettons qu'on passe à 5,3, 5,5, 6%, si vraiment il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, ça veut dire que votre obligation en tant que telle, elle va coûter moins cher sur le marché, mais on continuera à vous verser les fameux 5,26 ou 5,27 que vous aurez décidé de payer à un moment charnière, c'est-à-dire maintenant. A contrario, si votre obligation redescend sous les 5 points, 4,8, 4,4, où nous attend par exemple la moyenne mobile 200 semaines, eh bien votre obligation vaudra plus cher sur le marché. Donc soit vous continuez de toucher vos 5,26 pendant X années jusqu'à ce que vous ayez envie de vendre votre obligation, soit vous faites la culbute à court terme, puisque vous pouvez la vendre n'importe quand, bien entendu, en bénéficiant d'un prix qui sera plus attractif, puisque vous aurez sécurisé en amont les 5,26%, et des personnes, une fois qu'on ne proposera plus que du 4,5%, seront beaucoup plus intéressés pour payer plus cher celles que vous aviez sécurisées en effet à 5,26. Donc j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible et avec mes mots comment ça fonctionne du côté obligataire et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce marché, notamment peut-être pour les retraités qui aujourd'hui ne veulent pas tant de volatilité que ça, notamment sur la tech américaine, est-ce que c'est un sujet qui peut vous intéresser et est-ce qu'on doit le traiter en profondeur sur la chaîne, notamment jusqu'au fait d'aller chercher des tickers, les meilleurs ETF qui peuvent vous permettre d'un point de vue européen de vous y exposer ou de vous y intéresser dans un premier temps. Voilà, si on a suffisamment de retours qui vont en ce sens, bien entendu qu'on vous fera le travail de notre côté pour vous proposer tout ça. Le S&P 500 donc qui continue de consolider dans un mouchoir de poche depuis pas mal de temps, dès qu'il y a une petite incartade vers le bas, et eh bien c'est repayé par le marché. On a quand même touché 7300 points cette semaine. Je pense pas qu'au cours du mois d'août on va réussir à renverser complètement cette polarité pour ne pas aller visiter les fameux 7000 points, d'autant plus que les oscillateurs font le dos rond et paraissent un petit peu fatigués. Mais en tout cas, pour l'instant, on a eu des rachats assez sérieux qui font penser, notamment quand on observe le Kospi, on le passera en fin d'émission au niveau de l'Asie, à des dead cat bonds. Quand on regarde en journalier, des volatilités à 25-30% sur des indices comme ça, c'est complètement dingue. Du côté de la Corée, apparemment, ils jouent tous avec des leviers complètement fous. Ils se sont complètement flingués les comptes et tout ça, si c'est pas que au sens littéral, il y a des gens justement qui sont en train de se jeter par les fenêtres, donc c'est quand même assez gravissime ce qui se passe. Et du côté des États-Unis, ben pour le Nasdaq, 28 274, on clôture la semaine dans le vert, mais on était venu là aussi à 27 000, avec un point de chute, comme je vous disais la dernière fois, qui était plutôt autour de 26. Les oscillateurs, là aussi, nous annoncent à court terme potentiellement une continuité de cette contraction avec une saisonnalité qui irait dans ce sens en août-septembre. Donc attention pour les deux mois à venir. Côté monde, on a moins reculé puisque c'est un tout petit peu mieux pondéré que le S&P ou que le Nasdaq. On clôture la semaine à 0,49. Donc là aussi, que ça soit en volatilité positive ou négative, eh bien on absorbe un petit peu mieux les mouvements et on troque un peu moins de pourcentage de gains par un peu moins de pourcentage de baisse quand ça vient arriver. Ce qui paraît, bah, quand on le dit, tout à fait logique. Quand on observe la liquidité, notamment le M2 Money Stock aux États-Unis, on est encore et toujours dans une progression ultra positive. Donc pas de souci du côté de la liquidité des États-Unis. Par contre, la liquidité mondiale, c'est pas toujours tout aussi ragoûtant. Le CAC 40, 8500 points, proche de son ATH à 8635, à voir pour la semaine prochaine. Le SOX, donc l'indice des semi-conducteurs, qui est venu chercher le 0,382 de Fibo autour de 464. Donc pour le iShares, on a le 0,5 de Fibo qui est à 400 et enfin le 0,618 à 340 avec une belle zone de sortie. Si un jour il y a un vrai vrai crack autour de 260 et la moyenne mobile 200 qui va remonter autour de ceci, on voit cette semaine à quel point on a eu une bougie de volume complètement folle, donc qui a permis justement de balayer premièrement sur l'hebdomadaire un moins 13% du côté des États-Unis et ensuite de remonter de quasiment tout autant, ce qui s'est retranscrit pour le Kospi et la Corée par environ un mouvement de moins 30 plus 30. Il est à noter que le dollar pour cette fin de semaine a clôturé sous la fameuse zone des 100 points, donc on n'est toujours pas dans un dollar qui arrive à se hisser jusqu'à la zone des 103. Ça me paraît un petit peu bizarre, justement dans la tension qu'on connaît actuellement avec un VIX là aussi qui, toutes les semaines depuis pas mal de temps, c'est un coup plus 15, un coup moins 10, un coup plus 20, un coup moins 15, à voir ce que ça pourrait donner, mais on a quand même une certaine tension de marché qui est très bien retranscrite ici. Le gold de 4045 toujours en latéralisation, c'est exactement le genre de contraction qu'on veut voir sur un actif avec des oscillateurs qui se remettent à plat. C'est très positif ce qu'on observe à court terme du côté du gold. On passe au niveau du crypto total qui lui va être un petit peu moins glop avec en effet ce juge de paix ou de guerre pour le mois d'août avec le Clarity Act. Il faut que ça passe. Si ça ne passe pas, et je crois qu'il n'y a plus que 20-30% du côté des marchés prédictifs du fait que ça passe justement maintenant, on va très certainement revoir les points bas, les fameux 2000 milliards, les 57 000 dans un premier temps du côté de Bitcoin, et a fortiori, bien entendu, ça enclenchera une certaine capitulation derrière pour voir pourquoi pas autour de 50 000. Donc pour BTC, on va quand même observer cette semaine pour voir si à nouveau on arrive à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200, mais pour l'instant, on voit qu'on manque d'énergie, on voit qu'on manque de volume, on n'a pas eu de véritable gros volume de capitulation. On en avait eu un, certes, ici en février 2026, avec une bougie qui nous avait fait passer de 79 000 à 60 000. C'était une énorme bougie, 3 semaines de baisse consécutive. On passe de 93 à 60, donc c'était quand même assez conséquent. Mais depuis, on n'a pas vraiment eu ici de retour de volume. Alors, peut-être qu'on est typiquement dans la zone de réaccumulation qu'on avait eu ici à l'époque autour de 2022 et qu'on avait eu encore précédemment autour de avril 2019, mais ça me paraît encore un petit peu trop tôt. Peut-être que justement les zones précédentes, eh bien, se sont passées soit à l'automne, soit au printemps, et que pour cette fois, justement, à nouveau, au cours de cet été, on n'est pas encore dans les clous de ce qui pourrait nous permettre de nous relancer, tant sur la saisonnalité que de ce qu'on peut observer par manque d'intérêt au niveau du cours. Ceci étant dit, c'est quand on n'a plus beaucoup de volume et un manque d'intérêt latent au niveau d'un actif que, premièrement, c'est le bon moment pour s'y intéresser. Deuxièmement, d'ici la rentrée, soyez-en sûrs, on va avoir un mouvement directionnel. Donc, dans les 8 semaines qui viennent, on va dire 2 mois, mais je dirais plutôt entre 4 à 6 semaines, un mois et demi, très certainement que soit on sera à 50 000, soit on sera à 70 000, mais c'est sûr qu'on va toucher une de ces deux bornes. Ethereum continue de suivre au pas derrière Papa BTC. Toute la zone de réaccumulation entre les 1004 et 2000 nous paraît logique. Attention au décrochage sous les 1004, bien entendu, qui engendrerait une capitulation monstre du côté de Ethereum. On a des contre-performances, notamment pour Canaan, pour les actions minières, mais on a des minières aussi qui ont pivoté IA au niveau de la puissance de calcul. Donc désormais, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair. Donc moins de 30% en séance tendance pour Canaan extrêmement baissière. Je pense qu'on peut d'ores et déjà la quasi sortir de la watchlist, puisque quelque chose comme ça qui est en train de littéralement mourir sur un graphique ne m'intéressera pas au long terme pour être payé. Contrairement à Coinbase qui revient sur son support, toujours dans ce grand triangle, voilà, ça devient compliqué, les 140 tiennent, mais jusqu'où par ce support qui se fait martyriser et marteler. C'est peut-être annonciateur aussi si Coinbase lâche à la baisse de ce qui va se passer pour le Clarity Act, puisque vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas attendre le dernier moment d'un point de vue institutionnel pour vendre le titre si le Clarity ne passait pas immédiatement. Ceci étant dit, c'est pas pour autant que ça en ferait une mauvaise société, c'est juste qu'on réajuste le fait que si Bitcoin va à 50 000, eh bien Coinbase doit être payé beaucoup moins cher pendant un instant T, de même que MicroStrategy et tout ce qu'il y aura autour. En parlant de MicroStrategy, toujours collé sous les 90-100 dollars ici, là aussi on latéralise depuis 4 semaines, statu quo, ils veulent vendre beaucoup plus de Bitcoin apparemment pour pouvoir payer toute leur stratégie autour de MicroStrategy. C'est un petit peu bizarre, un petit peu fumant désormais, mais voilà, ils ont besoin de cash, ils ont besoin de payer des rendements, et le tout aujourd'hui en disant, bah, on fera peut-être plus que acheter du Bitcoin, on va devoir en vendre, on va devoir mettre ça en dollars, on sait pas trop. Bon, ça devient un petit peu compliqué hein, autour de MSTR. Amazon qui nous pousse plus 15% à son tour en séance, un petit peu comme l'avait fait donc Microsoft cette semaine avec un ATH à venir chercher à 278, on est à 271. Google, pareil, qui reprend du poil de la bête quasi au contact de la MM50 la semaine dernière, 315 dollars de retour à 356. Là aussi, le marché est enclin, bien entendu, pour Alphabet, Google, à payer dès qu'il y a des discounts importants. Microsoft qui nous a fait une semaine rocambolesque, pas mécontent de l'avoir payé à l'époque sur le support ici, je ne l'ai pas eu à 350 précisément, mais j'ai dû la payer autour de 360 dollars pour ma part. Donc pour une fois que vraiment on spot un truc intéressant et que derrière ça se réalise dans de telles proportions, ça fait toujours plaisir. On a CRM également, Salesforce, qui nous trouve une belle réaction depuis un mois et demi, depuis la touchette des 146 dollars. On a 184, on aura une zone dure entre 193 et 208 dollars. Et le next step sera la moyenne mobile 200 à 236 dollars pour un ATH à 368 pour CRM. IBM au contact de la MM200 semaines qui trouve également de la réaction. Ceci étant dit, c'est un petit peu le foutoir entre les volumes, le cours ici qui fait le yo-yo. Donc on va attendre un petit peu que la volatilité se tasse. Mastercard qui, depuis le point bas quasi touché ici à la moyenne mobile 200 en juin, début juin 2026. Donc c'était à peine il y a deux mois, 464 dollars de retour à 573. Ça fait partie Mastercard, Visa, des actions qui en effet au long terme, eh bien là aussi délivrent une traîne de résolument haussière et ça se passe plutôt pas mal. De même que Coca-Cola d'ailleurs, qui dès qu'il revient soit au contact de la MM50 en orange ici à l'écran, soit de la bleue, la 200 semaines, a tendance à avoir une belle réaction. Au niveau des contre-performances américaines, on a Novo Nordisk qui revient sur son support des 46, on va dire entre 45 et 48 dollars. À voir à court terme ce que ça pourrait donner. Je crois qu'il y avait une étude qui était sortie sur un produit annexe qu'il devait sortir et que c'était pas super réjouissant. Et on a Roblox qui recule de quasi 30% en séance, qui pulvérise tout sur son passage. Donc le micro-pump récent qui est venu s'encastrer pendant 3 semaines à 55-57 dollars sur la MM200 a été repoussé manu militari. Donc pour l'instant, pas très intéressant pour le coup pour Roblox. On en a un qui, pour la bourse française, se porte très bien, c'est Euronext, au rayon des vendeurs de pioches et de pelles, plus 6%. Donc là aussi, je pense que la trend parle pour elle-même. C'est pareil pour le Nasdaq, c'est pareil pour MSCI, c'est pareil pour voilà, tous les éditeurs possibles et inimaginables des plus grosses bourses ou des plus gros produits mondiaux financiers. Schneider Electric qui poursuit donc une très belle semaine aux portes de l'ATH, juste sous les 300 euros. Pareillement, ça fait 3-4 semaines qu'on a une belle trend de reprise pour Total Energy, toujours sous couvert de ce qui se passe d'un point de vue du pétrole, etc. On a Thales qui joue la spéculation encore et toujours au niveau de la défense. BNP extraordinaire, 110 euros. En plus, on a un beau dividende. Voilà, depuis cette zone de novembre 2025 à 68 euros, on a une très très belle trend sur BNP qui est saluée par les spéculateurs comme la banque un petit peu en Europe, mais pas que. Donc à ce stade, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça en fait une belle action à détenir dans un portefeuille, mais pas à n'importe quel prix. On court jamais après le prix. On attend toujours qu'il revienne un petit peu sur nos moyennes mobiles long terme. Côté altcoin, on a Fluide, Instadap, qui, après être venu à 85 centimes, se défend. Donc, c'est plutôt cool de voir un support qui avait été travaillé dès septembre 2023, à nouveau en septembre 2024, faire office de support, justement, puisque parfois, eh bien, le marché nous dit juste, voilà, cet actif, on n'en a plus rien à faire, il peut mourir. Et malheureusement, du côté des altcoins, on en a 9,5 sur 10 qui ont tendance à passer à la trappe au travers du temps. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'en passe pas beaucoup plus, puisque, mis à part les quelques dossiers qui se comptent quasi sur les seuls doigts d'une main, pour le court terme, c'est très compliqué de se positionner sur les altcoins, d'autant plus qu'on est sur la semaine roulante du Clarity Act, donc ça peut vraiment péter dans les deux sens. Ceci étant dit, au long cours, on a le BNB qui nous fait quelque chose d'extrêmement propre pour ce bear market, c'est à noter. Alors, côté Asie, accrochez votre ceinture, puisque cette semaine, on a Samsung qui a balayé sur sa bougie, donc hebdomadaire, de moins 28% et qui a rebondi de plus de 30%. Donc, vous le voyez ici affiché à l'écran, c'est complètement dingue pour le coup. On avait la MM50 qui n'était pas très loin, le Kospi qui nous fait exactement pareil, l'indice donc coréen, qui sur la bougie hebdomadaire nous a fait passer à moins 22, moins 23% et qui derrière a repris 25%. Donc, on est venu, lui, au contact de la MM50. Ceci étant dit, quand on commence à avoir autant de volatilité, est-ce que c'est encourageant pour le court terme ou est-ce qu'on a beaucoup d'autres personnes qui attendent qu'une seule chose, c'est de sortir à bon compte? C'est exactement les événements de capitulation qu'on a déjà connus, nous, et qui sont avec des volatilités complètement démesurées du côté du marché crypto. Donc, faites très attention de ce côté-là. Alibaba qui reprend également encore et toujours de la force. Depuis un mois et demi où il avait touché 92$ sur le Nice, on est de retour à 122. Il reprend la zone de polarité des 120, donc pourquoi pas viser la moyenne mobile 50 autour de 142-143$. Le Topix pour le Japon, 4000 statu quo, on latéralise un petit peu à court terme, tandis que le Shanghai Composite est un petit peu plus dégradé à court terme. Ceci étant dit, les oscillateurs pourraient annoncer justement une zone de support ici pour le court et moyen terme. Attention à ne pas passer en dessous. On a Tencent, pareil, qui depuis un mois et demi sous fond de belles divergences au niveau du RSI et de moyenne mobile 200 semaines, a rebondi de 411 à 475 sur le Hong Kong Exchange. Et enfin, du côté des taux, pour le Japon, le 20 ans est à 3,68, le 30 ans est proche des 4 points. Le Nikkei clôture lui aussi au-dessus de son support avec un peu moins de volatilité que pour la Corée, 62 828. Et du côté des actions qui se sont faites repousser sur la fin de semaine, Nintendo qui recule de 5,72 et enfin Xiaomi qui, après là aussi avoir fait tous deux une très belle bougie de pousser haussière en début de semaine, s'est fait repousser pour Xiaomi sur vendredi à moins 7,28 et qui donc ne trouve pas l'énergie pour l'instant pour aller chercher, toujours sur le Hong Kong Exchange, la zone des 36. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent, on ouvre l'œil pour le Clarity Act. On prend pour acquis que potentiellement, si pas de Clarity, on revoit Bitcoin à 50 000 et les altcoins slash actions liées à l'écosystème entre moins 10, moins 20, moins 30%. Et normalement, ça sera là que notre dernière cartouche viendra à être tirée pour cet été slash automne 2026 avec une saisonnalité qui normalement nous conduira au terme de ce cycle de 4 ans avec un nouveau cycle justement qui pourra débuter courant début 2027. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouverez au cours de la semaine prochaine, maximum mercredi. Et surtout, eh bien, vous, comme vous l'aurez compris, vendredi, samedi, il y aura beaucoup de choses à dire, je pense, avec une semaine qui, très certainement, sur cette entame du mois d'août, va être placée sous le signe de la volatilité. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.